Bien, il est 18h30. Merci un peu commencer. Je vais procéder à l'appel de M. Ayosa Fabrice.
Présente.
Mme Amaya Irios Estel.
Présente.
Mme Bonifaci Sylvie.
Présente.
M. Bouc Philippe.
Présente.
Mme Caligari Virginie.
Présente.
M. Carpentras Henri, absent. Pouvoir donner à Mme Amaya Irios. Mme Côté Soto Sophie.
Présente.
Mme Cotel Laurence.
Présente.
Monsieur Defes, Jean-Marc, excusez. Madame Fraisse Alexandrine, absente, pouvoir donner à Madame Zbati Samira. Monsieur Grappin, Jean-Louis.
Présent.
Monsieur Garinos, Jean-Marc.
Présent.
Madame Hermitan Tamara.
Présent.
Madame Carbrat Isabelle.
Présent.
Monsieur Lambertin Jean-Pierre.
Présent.
Monsieur Miséréré Gérard.
Présent.
Monsieur Morel Stéphane.
Présent.
Monsieur Paré Franck.
Présent.
Monsieur Robin Christophe.
Présent.
Monsieur Sardo Nicolas.
Présent.
Madame Sauvade Sandrine.
Présent.
Madame Sauvadon Césarine.
Présent.
Madame Zbati Samira.
Présent.
Madame Soléiac Aline, excusez. Madame Souveton Anne-Marie.
Présent.
Madame Zandrini Mercedes. Pouvoir absente, pouvoir donner à Madame Hermitan Tamara. D'ailleurs, elle risque de venir lors du conseil. Alors, elle est un peu en retard. Élection du secrétaire de séance. Je propose M. Gérard Miséréré, qui s'abstient. Qui est contre, vote à l'unanimité. Je vous remercie. Approbation du procès verbal de la séance du 18 mai 2021. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune. Je passe au vote. Qui s'abstient? Et Madame Estelle Amaya Virgo. Pareil pour
les procurations, ça toujours vote identique.
Madame Zbati aussi. Donc, le groupe agit ensemble pour la PADU.
Tout au long de la séance, toutes les procurations seront en vote également.
Merci. Je vote à la majorité, je vous remercie. Troisième délibération, remise gracieuse du loyer restaurant de Provence, Madame Virginie Caligari. Le micro.
Merci. Donc, vu la loi 2020-290 d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie du Covid-19, vu le courrier recommandé de Mme Kelly Trevisanuto en date du 28 septembre 2020, demandant une remise gracieuse de loyer du restaurant, le Provence Société des Folies de Lily, pour la période de mars 2020 à juin 2020, considérant que les restaurants n'ont pas pu ouvrir leurs portes entre le 1er janvier 2021 et le 19 mai 2021, considérant les difficultés financières auxquelles sont immédiatement exposés les restaurateurs, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers, et qui mettent en péril leur reprise d'activité à l'issue de la période de confinement, considérant la volonté de la commune en tant que bailleur de soutenir les professionnels de la restauration, considérant que le loyer mensuel hors charge fixé pour le restaurant Le Provence est de 750 € hors taxe, soit 900 € TTC, et considérant que le courrier de la préfecture de Vaucluse en date du 20 avril 2021 disposant notamment le droit des aides économiques est dominé par le principe d'interdiction des libéralités qui découle du principe constitutionnel d'égalité. Ainsi, la collectivité ne peut renoncer entièrement au loyer qu'elle doit percevoir, sauf dérogation législative expresse justifiée par le traitement particulier d'une situation particulière. Dès lors, le terme de rabais doit être entendu au sens strict. En revanche, un loyer peut être ramené à un montant symbolique. Afin de fixer une remise gracieuse sur les loyers du restaurant Le Provence à la société Les Folies de Lily, M. le maire proposera au conseil municipal de retenir un loyer mensuel hors charge symbolique de 20 €, soit 24 € TTC, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021. Il sera proposé au conseil municipal d'accorder pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 une remise gracieuse des loyers hors charge de 3 650 € hors taxe, soit 4 380 € TTC. De préciser préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Si, Monsieur Rappel.
Non. Pas une question, mais juste dire que, bien évidemment, on vous suivra et ça rejoint l'esprit de la délibération qui avait été passée en décembre 2020, la gérante du Provence avait déjà sollicité de façon à bénéficier, dans le cadre des premiers confinements, de ces exonérations. Et on vous avait même demandé à l'époque de prendre la totalité de la période qui était sollicitée quand vous étiez arrêté à des périodes très strictes. Donc, bien évidemment, on vous suivra sur ce volet-là et qu'on discutera pas de la définition du montant de loyer minimum qui a été fixé.
Ça ne nous permet pas de ne pas être strict. C'est tout.
Normalement, je crois que la fin du Covid était au 17, voilà, on était jusqu'au 31 pour faire des comptes, tout simplement. Voilà, je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Budget primitif 2021, décision modificative numéro 1, monsieur Jean-Marc Garimos.
Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit tout simplement de la dissolution du CIBOM du massif Buchot, dont on avait déjà parlé fin 2020 pour une délibération qui portait sur une créance au CNFPT. Donc, celle-ci a bien entendu été payée. Et maintenant, dans le cadre de cette dissolution, c'est une bonne nouvelle, hein, la commune de La Palue va donc recevoir les excédents au prorata de la population qui était donc dans les caisses de ce CIBOM. Donc nous allons avoir en fonctionnement une somme de 21 700,77 et en investissement, résultat reporté, donc de 35 937,51. Alors nous allons vous proposer d'effectuer une petite décision modificative pour régulariser ces deux crédits qui sont rentrés dans nos caisses. Donc, en dépenses de fonctionnement, pour équilibrer la recette, nous allons tout simplement prévoir rajouter 21 700,77 € en dépenses imprévues. Je vous rappelle qu'on avait mis une somme justement pour... on avait mis une dépense imprévue parce qu'on ne connaît pas encore son montant. C'était pour la brasserie du lac. Hein. Donc, les travaux que nous serons sans doute amenés à payer. Ensuite, pour la section d'investissement, le résultat reporté étant de 35 937,51, nous mettons simplement cette somme en dépenses en immobilisation corporelle en cours dans le cadre de construction. Donc c'est toujours pour le même objectif des travaux futurs.
Merci, monsieur. Y a-t-il des questions ou des observations ? Je vous rappelle.
Bien évidemment, pas d'observation sur les chiffres, hein, puisque ils avaient même été adoptés en 2019, hein, quand les premières démarches de dissolution du CIBOM avaient été entamées. Juste là aussi, hein, rappeler à l'époque, c'était l'Interco qui voulait récupérer cette manne au regard du transfert de la compétence hors du ménagère, c'est du passé, etc. J'allais poser une question, puis la réunion d'avance étant tenue, on comprend. On comprend ou on ne comprend pas. Vous inscrivez l'excédent de fonctionnement qui est en dépenses imprévues. Soit, c'est véritablement, vous ne savez pas quoi en faire, ou, mais j'en ai compris, c'est le début de la thésaurisation qui commence.
Merci.
Non. Non, pas vraiment.
Pas allez, je passe au vote. Il y a qui s'abstient ? Il est contre ? Je vous remercie. Cinquième question, approbation de la convention relative au groupement de commandes pour la passation d'un marché d'ouvrage et pour le choix d'un fournisseur d'énergie. Monsieur Garinos.
Alors, donc, il s'agit donc de se regrouper pour passer des commandes pour un fournisseur d'énergie. Donc, il s'agit donc là d'un regroupement entre plusieurs communes et intercommunalités. Donc, je vais vous en citer donc, les différentes communes et regroupements qui se sont réunis pour pouvoir mettre en concurrence les contrats de fourniture d'électricité. Donc, il s'agit du CCAS de la ville de Bolène, des Comcom de Vaison-Ventoux, d'Aigouvèze en Provence et de Rhône-Lès-Provence, et des communes de Bolène, Camaret-sur-Aigue, Piolenc, Huchot, Roix, Entrechaux, Kéran, Faucon, Cresté, Saint-Romand-de-Malegarde, Ségurey, Sérignan-du-Comtat, La Motte-du-Rhône et Vaison-la-Romaine, qui va coordonner la passation du marché d'AMO, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Donc, on nous a juste signalé qu'il y a également l'adhésion de la gare de Paréole qui est arrivée entre-temps. Vous ne l'avez pas dans le projet de Lévib qui vous a été adressé. Et entre-temps, pareil, le désistement de Camaret. Camaret ne participera pas au groupement de commandes. Voilà, juste que vous ayez l'info. Donc, il est donc proposé d'adhérer au groupement de communes pour la passation d'un marché d'ouvrage et pour le choix d'un fournisseur d'énergie, d'approuver la convention relative au groupement de commandes et d'autoriser M. le maire à signer la convention relative au groupement de commandes et de désigner bien sûr M. le maire comme représentant de la commission d'appel d'offres. Voilà.
Des questions, des observations? Aucune? Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Si c'est la question, centre de loisirs, approbation de la convention colo apprenante et fixation du tarif de participation familiale. Madame Césarine Sauvadon. Merci Madame Sauvadon. Y a-t-il des questions ou des observations? Je vous transmets.
Alors j'aurais quelques petites questions parce que des familles m'ont contacté au sujet de cette colo apprenante. Et je voudrais savoir déjà dans un premier temps quels ont été les critères pour se voir proposer cette colo apprenante. Et ensuite, est-ce qu'il y a des enfants sur liste d'attente qui sont de la PALU?
Alors, les critères, en fait, ils sont fixés par l'État dans le cadre de colo apprenant. Donc, c'est les enfants des personnels indispensables à la crise sanitaire. Donc, la liste est établie par l'État. Les enfants porteurs de handicap, les familles monoparentales, les familles avec un quotient familial inférieur à 1200 euros. Donc, il y avait 36 places. Donc, en fait, on a contacté tous les enfants qui étaient inscrits au centre de loisirs cette semaine-là. Au 23 juillet. Donc sur les familles qui étaient, donc les enfants étaient inscrits cette semaine-là, il y a 36 enfants qui vont partir. On n'a pas publié d'affiche parce que contrairement aux autres années où il restait d'habitude 5-6 places, là le séjour était en prise, donc il ne faut pas l'utiliser pour moi et j'assume en fait de diffuser une affiche, de faire croire aux gens qui auraient des places et en fait il n'y en aurait pas. Après, on n'est pas à l'abri de désistement de dernière minute. Et à ce moment-là, on élargira, on contactera d'autres familles.
Du coup, vous avez une liste d'attente ou pas?
Non. À aujourd'hui, non.
D'accord. Parce que comme voilà, c'est quand même des colos apprenantes, elles ont quand même une action sociale auprès des familles. Voilà, il y a d'avoir quand même une vigilance, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, pendant la présentation, et on le savait déjà, hein, quand on fait le projet pédagogique, on le vise aussi. Les familles de la PALU ne sont pas forcément les plus riches, et elles ne sont pas forcément les plus d'offres possibles. Après, peut-être que des gens qui n'utilisaient pas la LSH parce que les horaires ne collent pas ou parce que c'est compliqué, les allers-retours, peut-être qu'en sachant qu'il y a un séjour, ils auraient peut-être pu faire participer leurs enfants. Donc c'est peut-être un peu dommage, peut-être à réfléchir l'année prochaine différemment.
Alors, là,
pour ouvrir à tous.
Alors là, le choix, il a été fait déjà de contacter tous ceux qui étaient inscrits cette semaine-là et qui rentraient par rapport à la tranche d'âge. Et c'est vrai qu'avec ces enfants-là, on a rempli le séjour.
Il n'y a pas d'extérieur hein, qui partent. La priorité à 29 euros, elle est bien donnée aux enfants de la commune qui payent leur impôt sur la
commune. C'est des enfants porteurs de handicap. On a des enfants porteurs de handicap.
Ouais. Non, mais ça, c'est normal. Mais autrement, il n'y a pas d'extérieur sans porteur de handicap. Qui...
Non.
Ouais. Merci pour les réponses, Cézanne.
De rien.
Il y a d'autres questions ? Qui s'abstient, qui est contre, vote à l'unanimité, je vous remercie. Septième question, fixation des tarifs de location de la salle communale du parc et de l'espace culturel des Bourgades et approbation des règlements d'utilisation des salles. Madame Anne-Marie Souveteau.
Merci, monsieur le maire. Alors, en fait, il s'agit de délibérer sur les tarifs de location de la salle communale du parc et de l'espace culturel des Bourgades. J'ai proposé donc au conseil municipal de fixer les tarifs pour la location de la salle communale du parc et de l'espace culturel des Bourgades de la manière suivante. Et d'approuver le règlement d'utilisation des salles communales 6 juin, applicable à compter du 9 juillet 2021. Alors les locataires, comme il s'agit d'entreprises, c'est 100 euros la journée de 7h à 20h avec une caution de 300 euros. Et les associations présentant un intérêt communal, ça reste gratuit avec une caution. Voilà, vous avez tous les éléments en annexe 6.
Il y a plus des questions, observations. On en a rien, monsieur Grappin.
Un des deux. Qui tu veux.
Ma question, elle est triple. Les deux premières, c'est regard du tableau que vous nous proposez. C'est quoi une association qui présente un intérêt communal? Je reprécise la question, est-ce que toute association de la PALU bénéficie automatiquement de ce tarif, quel que soit l'usage qu'elle fait de la journée? Auquel cas, ça me semble plus simple d'écrire les associations de la PALU et qu'on puisse viser les associations. Et puis, parce que j'imagine que l'intérêt communal pour une association extérieure, c'est type une association Croix-Rouge, etc. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce que c'est, mais peut-être c'est volontaire qu'on fasse. Après, s'agissant des entreprises, je ne vois pas de distinguo entre une entreprise de la PALU et une entreprise extérieure. Il me semblerait qu'au regard aussi des difficultés que connaissent les entreprises et des besoins de locaux qu'elles ont, qu'on puisse faire un tarif gratuit pour les entreprises de la PALU qui sollicitent l'utilisation de ces salles. Alors je sais, on va me dire, les difficultés de la commune. J'entends aussi les difficultés et les besoins de nos acteurs économiques. Et la dernière, c'est juste un détail, mais qui est... peut-être technique, sur le règlement, on s'aperçoit que ces salles-là vont sans doute être louées, en vocation à être louées à la journée, notamment pour les entreprises, et que dans les annexes ne figure que le nombre de personnes debout, et qu'il serait peut-être plus aussi raisonnable pour éviter et balayer les choses, qu'on puisse préciser quel est le nombre de personnes assises qui puissent y être, de façon à ce qu'il n'y ait pas de débat. Moi, voilà, ce qui me gêne véritablement, et notre vote sera conditionné à ce que vous allez nous répondre, c'est... est-ce que, s'agissant des entreprises de la PALU, on peut faire en sorte qu'elles bénéficient de ces salles à titre gratuit?
Alors, ce projet, il a été établi à la demande d'une entreprise. Une entreprise nous a proposé de louer une salle à la PALU, parce qu'elle l'a louée à l'extérieur. Une entreprise, la PALUcienne, qui génère des bénéfices. Et cette même entreprise, nous lui avons accordé à titre gracieux, pendant plusieurs mois, lors de la période Covid, cette même salle. Donc après, ils nous ont proposé de louer une salle au même prix que ce qu'ils louaient sur Bolène. Alors je préfère autant qu'ils viennent la louer sur la PALU qu'à Bolène. Ensuite, on peut envisager aussi pour les entreprises de la PALUcienne, on peut faire au coup par coup et puis voir éventuellement. Mais là, bon, je ne m'engage pas là-dessus pour l'instant. D'autre part, Concernant les associations, la Palucène, bien évidemment, elles sont prioritaires déjà sur la location, sur les locations. Il y aura un calendrier d'occupation des salles qui sera établi. Et puis, on fait aussi fonctionner le service public. C'est-à-dire que si cette entreprise part de la PALU, elle amène quand même une cinquantaine de personnes sur deux jours. Elle fait fonctionner le commerce local. C'est-à-dire que ces personnes-là vont consommer que ce soit à la pharmacie, bureau de tabac, presse, spa, restaurant. C'est une petite activité économique qui n'est pas négligeable non plus pour nos commerçants. Voilà, est-ce que j'ai répondu? Alors oui, vous m'avez parlé aussi d'associations présentant un intérêt communal. Bien sûr que toutes les associations à la Palucène présentent un intérêt communal. Mais il y a aussi des associations extérieures qui présentent un intérêt communal. C'est pour ça qu'on n'a pas précisé la Palucène extérieure, etc. Ce sont les associations qui, pour nous, présenteront un intérêt communal, bien évidemment. Est-ce que j'ai répondu à vos questions?
Enfin, non, je n'ai pas compris si l'entreprise pour la PALU, c'était gratuit ou payant.
C'est payant.
Non, ce n'était pas envisagé que ce soit gratuit.
En fait, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que en fait, c'est une entreprise qui vient de façon récurrente souvent.
C'est ça.
Voilà. Peut-être qu'on aurait pu inscrire qu'elle était allouée une fois gratuitement pour une entreprise, je ne sais pas, quelqu'un qui veut faire une démonstration,
ça
peut-être
le
faire
ça
une
fois.
Ça ne
s'est jamais présenté jusqu'à présent. Ouais. Aucune entreprise n'a demandé à louer une salle gratuitement. Pardon, vous avez dit quelque chose?
Non, quelque chose à rajouter? Non, c'est pour ça qu'on s'abstiendra. Mais on va attendre le vote pour vous dire.
D'accord.
Bien, je passe au vote. Donc, qui s'abstient? Non. Le groupe Agir Ensemble pour la PALU. Qui est contre? Vote à la majorité, je vous remercie. 8e délibération. Ressources humaines, suppression de postes et modification du tableau des effectifs. Monsieur Philippe Bouc.
Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de la suppression de postes et de la modification du tableau des effectifs. De modifier le tableau des effectifs en tenant compte des besoins réels dans les différents services municipaux, sachant que le nombre de postes ouverts est actuellement de 110, et considérant que la commune porte un besoin d'effectifs réels de 29 agents titulaires et 16 agents non titulaires, considérant que la nécessité d'un pilotage réaliste des emplois amène à la commune à supprimer les postes non pourvus. Donc, il vous est proposé de nous permettre de mettre à jour le tableau des effectifs en lien avec les effectifs de la commune.
Y a-t-il des questions, des observations, Monsieur Grappé?
Oui, plusieurs remarques. Hein. Okay. La première, pas d'observation sur le fait que vous veniez toiletter le tableau des effectifs. Ça fait du ménage. Vous l'avez fait à minima. On reviendra de temps en temps rajouter des postes. Je pense qu'il y a certains endroits, on aurait pu en garder un ou deux de repli, mais bon, on reviendra ici de temps en temps venir faire les modifs. Moi, j'ai la première interrogation sur l'emploi de M. André Rotil, directeur général des services, hein, qui me semble remplir ce poste-là, qui me semble le remplir avec talent et brio. Et qu'on ne le retrouve pas sur l'emploi fonctionnel du directeur général des services. Interrogation. Le reste, donc, du coup, il est affecté sur un autre poste de catégorie A avec un autre agent aujourd'hui en poste. Quid de l'ancienne responsable des services de la mairie, qui était sûrement, semble-t-il, sur un poste de catégorie A, qui est en disponibilité. Est-ce que le fait qu'elle soit en disponibilité, on ne devrait pas la voir apparaître au tableau des effectifs? Il me semblerait que oui, non. Et après, c'est une remarque générale. Hein. On s'aperçoit qu'on est à flux tendu, notamment sur les postes techniques, hein, qui nécessitent de faire appel à des besoins occasionnels, saisonniers, et une figure, je l'ai dit tout à l'heure, attention qu'on se recentre sur les missions premières sans aller rechercher des missions par ailleurs qui doivent être dévolues à la DIRCO, etc. Sinon, on l'a vu déjà dans certaines des prestations que vous avez assurées, c'est le pied à l'étrier, c'est des prestataires extérieurs qui vont arriver. Donc moi, c'était ces deux interrogations sur ces postes de DGS et de catégorie 1.
Donc, en effet, la personne qui remplit leur fonction de DGS actuelle est sur un poste de catégorie 1. Et pour la deuxième DGS, donc qui est en disponibilité actuellement, ce qui nous a été demandé, c'est de ramener quelque chose qui collait à la situation actuelle des effectifs. Donc, on avait un gros écart entre le nombre de postes ouverts et le nombre d'agents réels dans la commune. Donc, on a fait le choix de se rapprocher de la plus près de la réalité. Et c'est vrai que si la personne était amenée à venir, ben, évidemment, on repassera en conseil pour ajouter, pour retirer le poste. Mais aujourd'hui, on se met au plus près de la réalité du terrain à la fois.
Enfin, pour moi, vous n'êtes pas à la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que cette personne est en poste et que si elle revenait pour une raison ou une autre demain, elle ne peut pas reprendre son métier parce que du coup, il n'y a plus de poste ouvert. Il faudrait aller chercher une délibération du conseil municipal. Voilà. Pour moi, il y a une erreur manifeste d'appréciation et que ça ne changera pas la face du monde. Mais je ne suis pas un spécialiste de la RH, mais il me semble qu'elle est bien aujourd'hui dans la liste des dossiers vivants. Cette personne étant mon enfant présent. Enfin, je reviens juste de ce bout, vous n'avez pas répondu à ma question sur le volet de l'emploi de monsieur le directeur général des services. Voilà, ça m'interpelle.
Venant du plan de recrutement du directeur général des services, il était acté qu'il était sur un poste de
service. Il signe ses mails en tant que directeur général des services. Il y a quelque chose qui
ne va pas. Simplement, le détachement sur l'emploi fonctionnel n'est pas une obligation.
Je sais
donc
bien,
en fait, il faut tout simplement que le cadre d'emploi d'attaché soit, enfin que le poste soit ouvert en tant qu'attaché, et ça l'est. Et pour celle qui est en disponibilité, c'est pareil. Son poste, son grade est attaché, elle est prévue sur le plan des effectifs. Après, s'il faut la détacher sur un emploi fonctionnel, c'est à négocier avec elle. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation.
Non, mais là, elle n'est même pas détachée, son poste. Enfin, elle n'est plus à l'effectif.
Il n'y en a
plus à l'effectif.
Il y en a deux au lieu de trois dans le tableau.
Moi, j'ai des attachés, j'en vois que deux.
Bah, donc, on redélibérera, tout simplement.
Il y a une erreur peut-être de...
Si elle fait sa demande de réintégration, elle n'est pas obligée.
Non, mais sans être réintégrée.
Elle est obligée de rien. Elle est obligée de rien.
Avec son salaire.
Je passe au vote. Qui s'abstient ? Nous allons agir ensemble pour la valide. Qui est contre ? Votre majorité, je vous remercie. Même question, ressources humaines, approbation du règlement intérieur du personnel communal. Monsieur Philippe Bouc.
Donc le conseil municipal n'est pas prêt à délibérer sur le projet de règlement intérieur du personnel communal. Nous considérons la nécessité pour la collectivité de se doter d'un règlement s'appliquant à l'ensemble du personnel communal, précisant un certain nombre de règles, principes et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services municipaux. Il vous est proposé d'approuver le règlement intérieur du personnel communal que vous avez en saisie.
Intérieur était en collaboration avec le personnel
ou... Oui, voilà. Il a été rédigé en collaboration avec les responsables de service.
Ensuite, j'ai vu sur le règlement pour la voiture de service, en fait. C'est
Donc les passagers, il y a un paragraphe sur les passagers qui sont interdits donc, dans les clubs de service. Je voulais savoir si ça concernait aussi quand ils récupéraient leurs enfants à l'école. Parce que c'est courant de voir un employé récupérer ses enfants à l'école dans la voiture de service. Est-ce que ça devient interdit à partir de ce règlement ou c'est quelque chose qui...
Alors, c'est interdit, c'est des problèmes d'assurance. Exactement. C'est simplement des problèmes d'assurance. Ce sont des véhicules qui sont assurés comme des véhicules professionnels. Donc, en effet, oui, on sait que ça se fait, en effet. Pour autant, les enfants, par exemple, dans ces véhicules ne sont pas assurés. Donc, il faut qu'on soit en conformité, il faut que le règlement soit en conformité avec ce que nous imposent les assureurs, et donc on est obligé d'interdire.
Ensuite, encore une question, je n'ai pas vu de paragraphe parlant de tenue vestimentaire, de fourniture de tenue vestimentaire, ou de roulement de la tenue d'obligation, enfin, il n'y a rien sur les vêtements, en fait, non, le nettoyage.
Il n'y a rien sur ce sujet. Pour moi, ce n'est pas le lieu dans un règlement. On n'a pas obligation dans un règlement
s'il n'y a pas de spécificité sur les tenues réglementaires, en sachant qu'on a des employés.
Moi, étant membre de CHSCT et de CSE, je suis désolée, mais les vêtements, c'est quand même un débat de savoir qui les nettoie, si c'est pris en charge par le patron. Combien de tenues on va avoir par an?
Est-ce qu'on peut la mettre avant de venir? Est-ce qu'il faut la mettre au local?
C'est important, sinon demain, je veux dire, ils peuvent venir habiller comme ils veulent, les gens travaillent. Nous, on a des chaussures de sécurité, on dit qu'on va en donner une paire par an, que le nettoyage des blouses, ça fait une fois par semaine. Enfin, voilà. Donc, je considère qu'ils n'ont pas de vêtements, de fonction.
Il y a aussi la PM,
il n'y a pas de répondre. Ils le font à l'atelier, il y a une machine à laver, un séchage, ils ont la lessive, ils font ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années, donc avant qu'on arrive c'était fait comme ça, donc ils continuent à faire la même chose qu'ils faisaient, et on fournit, cette année on aura fourni t-shirt, pantalon, veste, casquette,
Je trouvais surprenant qu'il n'y ait pas de paragraphe.
C'était pas marqué dans le paragraphe, mais bon, il y a une rotation qui s'est faite comme ça doit être fait par rapport à la législation. Voilà.
Merci. Je vais juste en rajouter quelque chose. Quoi qu'il en soit, ça a été, il y a eu un avis favorable au comité technique du CDG. Donc automatiquement, vous savez que le CDG, il y a des élus qui sont dans le CDG et il y a des syndicats. Et ça a été voté à l'unanimité. C'est simplement ça. Donc, c'est que on aurait été retoqué quoi qu'il en soit.
D'accord. Je suis également en CSE. Et ces questions-là, moi, je ne l'ai jamais vu dans un règlement intérieur. Par contre, des questions qui peuvent se poser lors des visites de sécurité, du CSE, et qui peuvent être à l'ordre du jour de réunion de CSE. Dans les TV, donc ça peut figurer tout ce qui concerne le règlement intérieur.
Quand il y a des tenues qui sont fournies par l'employeur, c'est écrit dans le règlement en fait. Là par exemple, dans le règlement, on nous a interdit les tenues pourraient être exigées. Vous voyez souvent dans les règlements déjà. Nous on a des chaussures, on n'a pas le droit d'avoir des chaussures ouvertes, même en travaillant dans des bureaux. Il y a toujours un petit paragraphe sur. La tenue. Quoi. Nous, on leur donne des bleus de travail, on dit qu'on leur donne deux bleus de travail par an et que c'est la société Intel qui va s'occuper du nettoyage. Ou ceux qui nettoient leur blouse eux-mêmes, on leur donne une prime de nettoyage. Donc, c'est écrit aussi.
C'est l'étage qui est dans le règlement
du salaire de gestion.
Ah oui, c'est ça.
Moi, je l'ai dit dans le contrat de travail, par exemple, pas dans le règlement intérieur.
Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Le groupe agir ensemble pour la tenue. Qui est contre? Vote à la majorité. Je vous remercie.
10e délibération, approbation de la convention de mise à disposition d'un véhicule électrique à la commune de La Palue par la communauté de communes Rondelès-Provence. Monsieur Philippe Bouc.
Donc le conseil municipal est délibéré sur le projet d'approbation de la convention de mise à disposition d'un véhicule électrique à la commune de La Palue par la communauté de communes Rondelès-Provence. Considérant le programme des territoires à énergie positive pour la croissance verte, c'est le PCV, lancé en 2014 par le ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de la Mer, qui souhaitait territorialiser une politique de transition énergétique afin d'atténuer les effets du changement climatique avec l'émergence de projets innovants. Considérant que la communauté de communes Rondelès-Provence a été lauréate d'un appel à projet pour l'acquisition de véhicules électriques initiés par Montélimar-Rapion sur le territoire de l'énergie positive, avec la signature d'un avenant à la convention particulière d'appui financier le 5 juillet 2017. Considérant que la communauté de communes Rondelès-Provence dispose d'un parc automobile de 10 véhicules électriques sur ce territoire intercommunal, il sera proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver cette convention de mise à disposition d'un véhicule électrique à la commune de La Palue et d'autoriser M. le maire tout document nécessaire à son suivi.
Est-ce des questions ou des observations ? Aucune. Je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième délibération, approbation de la convention de gestion des services, ramassage des encombrants et nettoyage des abords des points d'apport volontaire. Monsieur Robin Christophe.
Merci, M. le maire. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de convention de la gestion des services, ramassage des encombrants et nettoyage des abords des points d'apport volontaire. Alors, considérant que la communauté de communes Rhône-Lès-Provence exerce depuis le 1er janvier 2017 en lieu et place de la commune membre des compétences collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Considérant que la communauté de communes Rhône-Lès-Provence souhaite que les communes assurent directement la continuité de la compétence hygiène et sécurité publique en procédant elle-même à la gestion et nettoyage des points d'apport volontaires et au ramassage des encombrants. Considérant qu'il convient de mettre en place une coopération entre la commune de La Palue et la communauté de communes Rhône-Lès-Provence, la présente convention de gestion s'y annexée, visant à préciser les conditions de la gestion des services, ramassage des encombrants et nettoyage des abords des points d'apport volontaire. Considérant que la présente convention entre en vigueur le 1er avril 2021, pour une durée de 3 ans, année renouvelable, une fois de manière expresse pour la première durée. Il sera proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver cette convention et d'autoriser M. le maire à signer cette convention et à procéder aux autres formalités liées à cette décision.
Est-ce qu'il y a des questions, des observations, M. Mappé?
Enfin, je vous avoue que là je ne comprends pas. Mais, alors, ça s'est décidé en bureau de l'Interco, soit je n'y suis pas, nombreux, on est peu nombreux, vous êtes peu nombreux à y être autour et vous l'avez validé. On refait un peu le film en arrière. Effectivement, précédemment, gestion des encombrants, nettoyage des abords volontaires, fait soit par la commune, soit à l'époque par le CIVOM du Tricastin, avec une dépense communale. La loi dit en 2017, cette compétence est transférée de droit à l'Interco. Effectivement, et dans le même temps, on transfère à l'Interco, on transfère du personnel, mais la dépense que la commune assumait est retenue sur son attribution de compensation telle qu'en a décidé la CLEC. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on vient dire que la commune fera ce travail-là en lieu et place de l'Interco, ça veut dire que du personnel qui avait été mairie est basculé à l'Interco, donc il reste toujours Interco, que je ne vois aucune disposition financière décrite, donc ça veut dire qu'on valide, enfin la commune de La Palue, et j'imagine sans doute les autres, mais moi ce qui me préoccupe c'est la commune de La Palue, dit on va dorénavant venir faire et assumer ces dépenses en lieu et place de l'Interco. Enfin, il me semble que à minima, si on l'acceptait de le faire, et on pourrait le comprendre parce que c'est plus efficace, c'est plus rentable, mais on aurait pu considérer qu'à minima soit au moins écrit une clause de revoyure ou si ce n'est la définition du coût que ça représente et pouvoir dire c'est tant d'équivalents humains, c'est tant d'heures, c'est tant de coûts matériels, et que cette charge-là, elle doit être remboursée par la communauté de communes. Enfin, sinon, il y a quelque chose qui m'échappe. Et dans le contexte qu'on a pu évoquer précédemment, et je pense que, enfin, j'ai pas une idée du chiffre comme ça, mais je pense que ça sera, c'est pas négligeable quand on voit l'incivisme de certains et de nombreux, le temps qu'on va consacrer à du c'est des agents de la mairie hein, qui vont encore faire ça avec des boulons avec le temps, mais encore une fois, sans qu'on ait un retour de l'Interco, ça me semble, enfin, il y a quelque chose qui m'échappe, et pour le coup, que je trouve pas normal dans le principe. Alors, enfin, c'est peut-être, alors peut-être que c'est moins compliqué à Bolène, c'est moins compliqué à Mondragon, je ne sais pas comment ils fonctionnent dans leur service, leur personnel, mais ça me semble sans doute compliqué, délicat à la value. Voilà.
Non, mais c'est, en fin de compte, on confirme quelque chose qu'on a commencé déjà depuis le 1er avril. Le dernier CM qu'on a fait, il y avait les mêmes questions, donc pour le ramassage et l'encombrement, avec une personne de la meute sur une journée. Donc on faisait moitié la palue, la moitié la meute. Donc là, c'est simplement une confirmation. Donc ben, je pense qu'il va y avoir après une personne financière. De faire la partie finance, mais bon, on va récupérer, je pense, toutes les heures que les agents vont passer à ramasser les encombrants, et Dieu sait si on en ramasse de plus en plus, même si on fait le point de ramassage une fois par mois, en juin, on en a fait deux, et les gens sont de plus en plus sales, parce qu'on en fait même deux fois par semaine sans ramasse. Des canapés, des matelas, des, tout ce qu'on veut dans la palue, et ça devient de plus en plus compliqué. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions ? Observations ? Je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? La liste agir ensemble pour la palue. Vote à la majorité. Je vous remercie. Deuxième délibération, cession d'une parcelle de terrain communal cadastrée B 1194 lot A pour la création d'une résidence d'habitation dédiée aux seniors. Monsieur Gérard Miséréré.
Merci, monsieur Jean. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur la cession d'une parcelle de terrain communal cadastrée B 1194 lot A pour la création d'une résidence d'habitation dédiée aux seniors. Monsieur le maire informe les membres de l'Assemblée de la demande de la société Rios, représentée par Monsieur Breda Eric, sollicitant auprès de la commune de la Palue l'acquisition d'une partie de terrain communal cadastré 1194 pour une contenance de 1 hectare 11 arts et 63 centaires, située rue de la Vierge à la Palue. Considérant que la commune de la Palue acquit la parcelle cadastrée 1194 d'une surface d'un hectare 46, 62 centiaires, pour un montant de 190 600 francs plus de frais de notaire par acte notarié des 29 juin 1994 chez Maître Martinel à Bolène. Considérant qu'après divers entretiens avec la société Rios, il était convenu d'un projet de vente du lot A de la parcelle cadastrée B 1194 pour une superficie d'un hectare 11 A et 63 centiaires réservés pour la création d'une résidence d'habitation dédiée exclusivement aux seniors. Considérant que la parcelle cadastrée B 1194 d'une contenance d'environ 1 hectare 11 A et 63 centiaires provient de la division de la parcelle cadastrée B 1194 d'une contenance totale de 1 hectare 46 A et 62 centiaires, vu l'avis des services de France Domaine en date du 23 février 2021, évaluant la parcelle cadastrée B 1194 pour une contenance d'un hectare et d'un A à 586 500 euros, soit 48,87 euros le mètre carré. Vu le document d'apportage établi par la société Thierry Gauvet, délimitant la parcelle cadastrée section B 1194, une superficie de 1 hectare 11 A et 63 centièmes, il était convenu la cession du lot à une superficie de 1 hectare 11 A et 63 centièmes avec la société Helios pour un montant de 580 476 euros, soit 52 euros le mètre carré. Considérant que les frais d'acte sont pris en charge par la société Helios au
représenté par M. Breda Eric. Il sera demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver la cession à la société Elio de la parcelle 1194 pour une contenance de 1 hectare 11A et 63 centièmes au prix de 580 476 euros. D'autoriser M. le maire à signer l'acte de cession ainsi que toutes les pièces importantes et d'indiquer que les frais d'acte sont à la charge des acquéreurs.
Y a-t-il des questions ou des observations, Monsieur Rappé?
On partage avec vous l'intérêt de voir s'installer sur la commune de La Palue des résidences pour seniors. Ça, pour personne handicapée, il n'y a pas de souci. Ce qui m'interpelle, qui nous interpelle, c'est la méthode. Rien à dire, le prix tel qu'il est proposé, les services de domaine n'ont rien à vous dire, vous avez retenu un prix qui est supérieur à celui que les domaines ont fixé. Je pense que vous avez sans doute fait le même travail que moi, où vous vous êtes rapproché d'agences immobilières pour savoir quel est le prix du foncier sur une surface de 12 000 m². Moi, j'ai fini hier à 22 heures avec deux agences immobilières, une sur Bolène et une sur la région. À Bolène, en 2020, mars 2020, en pleine période Covid, un terrain de surface similaire était vendu à 56 euros le mètre carré. Un autre terrain, on n'est pas à La Palue, on est sur une commune proche, on est à 58 euros le mètre carré. Et ce que les deux agences me disent, c'est que c'était des prix période Covid et que sans doute aujourd'hui, ça peut se lâcher. Ce que je ne comprends pas, c'est la première méthode, c'est pourquoi d'entrée, on signe avec quelqu'un sans avoir lancé un appel à projet et en mettant sur la table en disant « la commune de La Palue souhaite vendre un terrain et faites-nous votre offre ». De la même façon, et je ne viens pas critiquer M. et Mme Breda, ils sont connus, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas, domaine de Patras, ils viennent racheter l'hôtel L'Esplan à Saint-Paul-Trois-Châteaux, ils voulaient faire un hôtel dans la zone de Saint-Paul, ça ne se fait pas parce que ce n'est pas le bon endroit, du coup ils ont de l'argent, il y a des sociétés derrière, il y a du cash. Je ne crois pas qu'ils aient encore beaucoup porté de projets de résidence senior. Là aussi, pourquoi on ne fait pas un appel à projet visant à ce qu'on indique au travers d'un cahier des charges simple, on a un terrain à vendre, faites-nous votre offre de prix et votre offre technique, de façon à ce qu'on retienne, enfin, que la mairie de La Palue puisse retenir la meilleure offre, à la fois technique et financière. Je pense que ça ne prenait pas plus de temps. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors sans doute que celui qui a fait l'intermédiaire entre la mairie et M. Van Breda, il est dans la salle, il est très bon, très bien, mais je pense que, voilà, on aurait pu sans doute encore faire mieux. Et si on est à 60 euros au lieu de 52, c'est plus 96 000 euros dans les caisses de la famille. Moi, après, je lis les engagements qu'a aujourd'hui M. et Mme Breda. Et je les ai fait analyser par un juriste. Qu'est-ce qui est écrit aujourd'hui? L'acquéreur devra y réaliser un projet de construction de plusieurs maisons individuelles ou collectives. Donc plusieurs, ça commence à deux, mais on ne sait pas le nom. Et dans lequel on dit réservé notamment aux personnes âgées. Ça veut dire que, tel que c'est écrit devant un juriste, si la personne fait des maisons seniors, mais fait d'autres maisons que des maisons seniors et PMR, elle rentre dans votre cadre. L'aspect, c'est aussi, et la personne nous donne une indication de ce qu'elle est prête à mettre en investissement. Donc, il y a du cash, il y a de la réponse. C'est que, quand bien même les ventes, ce ne sera pas des habitations finalisées, on est en l'état de futur achèvement, donc les acquéreurs derrière. Autre point, on fait la vente en faisant en sorte que, notamment, le fossé aujourd'hui actuel soit hors des emprises. Ça veut dire que demain, l'aménagement du fossé sera à la charge de la commune. De la même façon, la placette de retournement aujourd'hui pour le camion poubelle reste propriété de la commune. On aurait pu faire rentrer ça aussi dedans dans les conditions, de façon à ce que le retournement puisse s'effectuer. Moi, je me pose aussi demain, donc effectivement, on vend une partie des bijoux de famille, et là, je pense qu'on les brade parce qu'on aurait sans doute pu envisager de les faire mieux, et qu'au travers d'un appel à projet, M. Breda était capable de répondre de la même façon à ce prix-là, mais en décrivant ce projet. Peut-être quelqu'un aurait fait mieux, mais on aurait pu aussi le retenir. Vous l'avez vécu, hein, vous le faites en ce moment, vous êtes en train d'aménager des trottoirs pour des cheminements PMR. Entre parenthèses, je me suis intéressé au devis que vous avez transmis à l'appui de la demande de subvention, 35 000 euros pour 70 mètres linéaires, j'enlève les barrières, j'enlève les passerelles qui aboutissent, j'enlève les potelés, j'enlève enfin, tout ce qui est accessoire. Je suis sur un prix de trottoir qui est à 238 euros le mètre linéaire. Je pense qu'on a le trottoir les plus chers de la taille. Si moi, demain, je me mets dans la configuration... Alors, je ne vais pas retenir ce prix-là, hein, parce que ce n'est pas le bon, et que le prix d'un mètre de trottoir, c'est sans doute à 50 euros. On a un prix de trottoir en mètre linéaire. Je me pose la question, moi, demain, on aura une résidence spécialisée senior, enfin, avec possiblement un nombre important de logements. Hein, on a une surface conséquente. Le PLU autorise à faire un étage, donc il peut y avoir du chiffre en termes de logements. Un public particulier... depuis ce point-là jusqu'au centre-ville, on va notamment passer sur le chemin de la Vierge, il y a 350 mètres de trottoirs qui sont inexistants, demain aménagement d'un trottoir. Sans doute, il faudra reprendre le carrefour, il faudra sans doute réaménager la voirie, parce qu'une fois, déjà, il y a le fossé à combler, trottoir à faire au droit, sans doute du renforcement de réseau. Je pense que, quand je fais le compte vite fait, je suis peut-être loin du compte, on est à 250 000 euros d'aménagement, c'est la contrepartie. Tout ça... ça sera bien évidemment une charge de la commune, mais ça fait partie de la compensation, l'aménagement a un coût. Mais ce coût, il est notamment pas négligeable, et qu'à ce titre-là, je pense que ça valait le coup, encore une fois, qu'on ait une discussion, au moins au travers d'une mise en concurrence simple. Le code ne précise pas, un appel à projet, ça peut prendre 3 pages hein, pour décrire un prix, un projet. Aujourd'hui, on est dans la capacité de décrire quel va être le projet, combien, etc. À ce titre-là, pour le coup, en vous le redisant, on valide et on approuve le fait qu'on puisse installer de la maison senior sur ce secteur-là. On pourrait discuter du terrain. Est-ce que la commune n'aurait pas dû le garder pour demain réaliser ses projets, parce qu'il n'y aura plus beaucoup de terrain disponible mairie. Et que le particulier aurait pu aussi le faire ailleurs, mais le fait de le vendre, ça permet de renflouer les caisses, et ça, on peut l'entendre. Mais la méthode qui vise à ce qu'on se ferme d'entrée toute discussion sur le prix et sur le projet, enfin, nous interroge pour le moins, et pas petitement, de manière grande.
Des maisons individuelles. On s'est réunis au moins 3-4 fois là-dessus. On était jusqu'à Aubagne pour voir ce que c'était les maisons seigneuriales qu'ils voulaient nous faire. Donc on a déjà une petite idée. Bon, après, la réalisation n'est pas faite parce qu'ils attendaient d'avoir le terrain. Hein. Donc ils vont faire la réalisation après du projet dans les mois qui viennent. Voilà. Tout ce que je veux dire.
Sur les bijoux de famille, donc il faut savoir que la commune prévoit, avec cet argent récupéré, d'acheter d'autres terrains bien placés pour des équipements communaux. Voilà. Donc, exemple, on aurait pu le passer presque ce soir, on voulait vous proposer un compromis pour le terrain qui est au château d'eau, en face des écoles. Voilà. Donc celui-là sera acheté par la commune. C'est à préparation.
Complètement d'accord, et je fais court, hein, sans demander la parole, je m'en excuse, mais encore une fois, enfin, qu'est-ce qui interdisait qu'on lance un appel à projet, et si c'était M. Breda qui était le seul à répondre à 52, c'était à 52. Quelqu'un aurait répondu à 56, je vous redis, ça fait plus 96 000. Voilà, et j'entends, hein, on est au-dessus du prix des domaines, je pense que le prix de 52, on est sur un prix qui aurait sans doute intéressé d'autres...
Je rappelle, à 56, il ne venait pas la palue.
Non, mais pas lui,
peut-être
mais peut-être pas. Enfin, si cet aspect, pourquoi
oui, mais les autres, on a fait des demandes, c'est facile.
Mais vous êtes
mais après, on a fait des demandes, mais si vous n'avez pas tous envie de venir à la palue,
si
sachant déjà qu'il y a les docteurs, on est en pénurie de docteurs, donc à un moment ou un autre, on prend ce qu'il y a par rapport à... On n'a pas sous-évalué, on l'a vendu, c'est vrai, on l'a vendu 1 euro de moins qu'à Bolène, mais il part à Bolène. Donc à un moment ou un autre, il faut savoir, des fois, il faut aller vite, pour essayer, alors peut-être qu'on s'est trompé,
soit, mais peut-être que ce n'est pas compris. Le compromis n'est pas signé, c'est une attestation que vous avez en annexe, d'accord ? Et pour l'instant, il n'y a rien de signé. Le compromis va être signé rapidement, et sur le compromis, si vous voulez, nous donnerons le double, il y aura bien marqué dessus qu'il n'y aura que des seigneuriales, exclusivement des seigneuriales, et rien d'autre. Voilà. Je passe au vote. Qui s'abstient ?
Donc c'est bien dans l'attente d'avoir ce compromis qui donne bien les détails du nombre de maisons et si elles sont à la vente, à la location. Donc là, pour le moment, à s'abstenir. Et effectivement, quand on passera sur un document qui sera plus complet, on votera peut-être dans le même sens que vous.
Qui s'abstient ? Le groupe agirant ça ne va pas mieux. Qui est contre ? Donc à la majorité, je vous remercie. Troisième délibération, motion pour le maintien de la maison de retraite Les Arcades et de Sainte-Cécile-les-Vignes. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur la motion pour le maintien de la maison de retraite Les Arcades de Sainte-Cécile-les-Vignes. Le département de Vaucluse et l'agence régionale de santé ont décidé de fusionner les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Sablé et Sainte-Cécile-les-Vignes en un établissement unique d'une centaine de lits sur l'une ou l'autre de ces communes. Par ailleurs, la création d'un EHPAD unifié soit sur la commune de Sainte-Cécile-des-Vignes, soit sur la commune de Sablé, se ferait au détriment du bassin de vie des résidents et des familles de ces deux établissements, les déplacements des Céciliens étant orientés vers Orange et Bolin, ceux des Sablétains vers les zones romaines. Enfin, la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes dispose d'un terrain de 11 200 m2 acheté par la municipalité à cet effet et parfaitement adapté à l'édification d'une nouvelle maison de retraite. La municipalité de Sainte-Cécile-les-Vignes nous indique être prête à le céder gracieusement afin de permettre la construction de ce nouvel établissement. Ce terrain est situé au sud de la commune, jouxte une zone pavillonnaire à proximité immédiate du collège du complexe sportif et du complexe du Petit Prince, regroupant crèche, école élémentaire, cantine et centre de loisirs. Si ce projet d'EHPAD unifié devait voir le jour, que ce soit à Sablé ou à Sainte-Cécile-les-Vignes, il serait préjudiciable à la fois aux résidents des deux maisons de retraite, à leurs familles, au personnel des établissements et à chaque commune. Il sera demandé à l'Assemblée délibérante de voter la motion de soutien en demandant solennellement au département de Vaucluse et à l'ARS le retrait du projet d'EHPAD unifié regroupant les maisons de retraite de Sainte-Cécile-les-Vignes et de Sablé, le maintien de la maison de retraite de Sainte-Cécile-les-Vignes et sa reconstruction sur le terrain de municipalité de Sainte-Cécile-les-Vignes a acquis dans cette perspective. Il sera précisé que cette motion de soutien sera adressée au maire de Sainte-Cécile-les-Vignes. Y a-t-il des questions ou des observations ? Aucune ? Je vous remercie. Je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui compte ? Vote à l'unanimité, je vous remercie. 14e délibération, présentation du rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur concernant le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat des eaux de la région Rhône-Aigues-Ouvèze sur les exercices 2013 et suivants. Monsieur Jean-Pierre Merté.
Oui, ben écoutez, la loi prévoit que lorsqu'il y a lorsque la Chambre des comptes donc, fait un rapport d'observation sur un des syndicats dont est membre la commune, le conseil municipal donc, doit examiner cela. Moi, je vous propose donc une synthèse, vous avez le rapport, une synthèse rapide de cette présentation, et après, donc, si on veut ouvrir le débat, on peut l'ouvrir. Alors, dans le cadre de l'évolution de l'intercommunalité dans les années futures, la Cour des comptes a été diligentée en 2015 pour réaliser une enquête nationale sur les CIVOM, syndicats mixtes fermés. À la suite de cette enquête, de nombreux syndicats mixtes ont fait l'objet d'un contrôle de leur gestion par la Chambre régionale des comptes. Le syndicat Rhône-Aigues-Ouvèze, en qualité de syndicat mixte fermé, a été intégré à cette démarche. Le contrôle de la gestion porte sur la régularité et la qualité de la gestion et non sur l'opportunité des choix politiques des élus. Il n'est pas juridictionnel comme celui exercé sur les comptables publics, mais administratif. ne débouche pas sur un jugement, mais sur un rapport d'observation. Concernant le syndicat RAO, il aborde différents sujets. Le service public de l'eau au syndicat, la fiabilité et l'analyse financière, la délégation du service à la SOR, les marchés de travaux. Le rapport d'observation représente pour le syndicat une véritable feuille de route dans l'objectif de structurer le syndicat et de favoriser l'information des élus et la concertation des membres du syndicat. Le rapport présente des points positifs mais également négatifs sur lesquels nous allons revenir. Tout d'abord sur la gouvernance du syndicat. Le fonctionnement du syndicat est issu du fruit de l'histoire, dont une gouvernance que l'on peut qualifier de stable, avec il y a eu 4 présidents en 74 ans d'existence au niveau de ce syndicat. Cette stabilité de gestion engendre un besoin de modernisation des méthodes et de la gouvernance. Sur la question de la gouvernance, l'ensemble des préconisations de la Chambre des comptes a été mise en place sur l'année 2020 par les nouveaux élus. Création de 5 vice-présidences, avant il n'y en avait que 2 je crois, avec délégation de signature, qui n'existait pas avant, élargissement du bureau à 10 membres, réunion mensuelle du bureau, création de commissions facultatives, finances, travaux, grands projets, contrôle du délégataire, ressources et environnement, marché public. Ensuite, création de commissions obligatoires, mais elles y étaient déjà, mais peut-être pas dans la même, sous la même forme, la CAO, le contrôle financier du délégataire, et les commissions consultatives des services publics locaux qui existaient déjà, commissions et de délégation des services publics. Cette évolution est rendue nécessaire par une accélération des programmes de travaux sur différents secteurs, tels que le renouvellement des conduites structurantes, et c'est le gros morceau du syndicat actuellement, la recherche de nouvelles ressources en eau, la lutte contre les eaux rouges, dont vous entendez quelquefois parler, et l'interconnexion et la sécurisation de l'alimentation des nouvelles communes. Le syndicat mixte Rhône-et-Gouvèze est un outil essentiel qui doit être à la hauteur des enjeux futurs dans le domaine de l'eau en général et de l'alimentation en eau potable en particulier. Les évolutions sur ce mandat doivent permettre à ce syndicat d'assurer pleinement son rôle avec l'ensemble des acteurs locaux, communes et communautés et partenaires institutionnels. Sur la gestion budgétaire du syndicat, la synthèse du rapport d'observation définitive met en avant une gestion saine de la collectivité au travers d'une bonne situation financière, d'un faible endettement avec une capacité de désendettement d'environ 3 ans, d'une trésorerie abondante. Elle remarque que les taux d'exécution de l'investissement sont insuffisants. La Chambre recommande d'évaluer avec plus de précision sa capacité à investir pour ne pas mobiliser uniquement sur ressources budgétaires. Mais les rapports d'orientation budgétaire sont clairs et contiennent l'ensemble des informations attendues. Les principes comptables sont bien respectés. Le résultat de la section d'exploitation exprimé en pourcentage se situe au-delà des 18% des recettes sur la période. Cela dénote une bonne maîtrise de la situation financière. Les travaux sont bien suivis et les contrôles réglementaires effectués avec diligence. Sur le prix de l'eau, les tarifs du syndicat sont, c'est vrai, au-dessus de la moyenne nationale, mais cela s'explique par les caractéristiques du territoire. Vous voyez, la faible densité, puisque notre territoire, il s'étale de chez nous, ça part de Mordas, par chez nous, Molène, Vézor, et puis l'arrière-pays, vers les Baronnies, un morceau de partie des communes de la Drôme, des petites communes en particulier. Donc, avec tous ces kilomètres, donc c'est pas facile de rentabiliser, comme on dit, entre guillemets, des réseaux. Cette faible densité de population du territoire couvert ne permet pas de partager les dépenses liées à la distribution entre un nombre d'abonnés suffisant. La ressource principale en provenance du Rhône, géographiquement éloignée de certains lieux d'utilisation, et les coûts d'acheminement sont par conséquent élevés. Le prix de l'eau est cohérent avec le caractère semi-rural du territoire, mais trop élevé au regard des dépenses d'investissement réalisées par le syndicat sur la période. Élément qui va être corrigé avec le lancement d'une campagne d'investissement. Concernant le coût, on a vu, on est supérieur au coût national, je vous expliquais les raisons, mais par rapport au département de Vaucluse, quand on regarde les autres syndicats, on est bien placé, on est même légèrement inférieur à la plupart des syndicats vauclusiens. Voilà. Ensuite, délégation de services publics. Il y a eu à l'époque donc, la mise en place de notamment la fameuse télérolem qui est rentrée en ligne de compte et qui a fait l'objet d'observations de la Chambre des comptes pour la période 2008-2018. Donc c'est l'ancien contrat qui couvrait cette période. Donc après déploiement du matériel de la télérolem, la topographie du territoire du syndicat fait que 40% des abonnés se sont trouvés en zone blanche et que de ce fait, ben, pas de télérolève, donc ça ne fonctionnait pas. À l'époque, le défaut de couverture a généré un préjudice contractuel estimé à 691 550 euros. Ce préjudice a été entièrement compensé par le délégataire via un programme d'amélioration du service, l'intégration de surcoûts d'exploitation et la modification des dotations de renouvellement. Il n'a pas été intégré au nouveau contrat des prestations de télérolève. Là, il n'y a plus de télérolève, donc il passe et il relève les compteurs. L'exécution financière de la délégation de services publics, toujours sur l'ancien contrat, une actualisation irrégulière a été relevée par la Chambre des comptes des tarifs réalisés contre l'avis du syndicat et elle a engendré un trou perçu équivalent à 55 centimes d'euros pour une facture de 120 mètres cubes sur les exercices 2017-2018. Le délégataire a reconnu son erreur en présentant un revenu d'exploitation et du mal perçu de 13 400 euros, soit 0,36% des 3,6 millions d'euros de recettes facturées par le délégataire. Le délégataire, conscient de cette erreur et du préjudice induit, s'est alors engagé à verser une somme de 20 000 euros au bénéfice du syndicat sur un fonds pour le traitement social des factures d'eau. Ensuite, sur le contrôle du délégataire, la Chambre indique que le nouveau contrat a permis de corriger les points faibles, voire des irrégularités de l'ancienne convention. Il a également été renforcé les exigences concernant la relation avec les abonnés et la performance du service. Une vice-présidence, une commission de contrôle du délégataire et une commission de contrôle financier ont été mises en place sur ce mandat, ce qui permet d'exercer un suivi régulier du délégataire. Ensuite, sur la commande publique, la Chambre des comptes indique que sur le syndicat, que le processus de commande publique est bien maîtrisé. La Chambre n'a constaté aucune erreur sur les modalités de passation et de suivi des marchés. La Chambre indique que l'ensemble des marchés ont été conclus dans le respect des règles relatives aux formalités de publicité, de délai et de consultation des montants. Le syndicat fait le choix de renforcer le poids de la valeur technique sur les critères de consultation. Bon, il y a eu débat avec la Chambre des comptes là-dessus, parce que le syndicat donne une priorité donc, dans l'attribution des marchés à la valeur technique plus que sur le prix. C'est 60-40 qui est pratiqué. Parce que la valeur technique est importante. On a des réseaux qui sont refaits et qui sont, des réseaux très longs. On a besoin que ces réseaux ils durent le plus longtemps possible, même s'ils doivent coûter un tout petit peu plus cher. Il est important que techniquement, ces réseaux soient de bonne constitution, comme on dit, et puissent durer. Le syndicat, pour sa part, recherche en priorité une qualité de prestation. La qualité de pose et d'utilisation de matériaux adéquats est primordiale afin de garantir une durée de vie, ça c'est dit, voilà, des canalisations supérieures à 50 ans. Parce qu'actuellement, les canalisations du syndicat qui sont en voie de remplacement, il y en a beaucoup qui ont plus de 50 ans. Donc ça, il faut le savoir et qu'on ne peut pas se permettre au niveau du syndicat, vu le nombre d'abonner, tout ça, de renouveler souvent, hein, parce que financièrement, ce n'est pas possible. Les critères de sélection des entreprises de travaux. Dans le domaine des travaux publics, les entreprises revenues doivent apporter une capacité financière permettant d'assurer l'approvisionnement des matériaux et moyens matériels, une garantie en cas de difficultés techniques ou financières, une capacité technique, c'est ce qu'on disait, il faut que les entreprises qui soient quand même conformes, qui aient l'habitude de faire ces travaux, qui soient vraiment certifiées hein, pour faire ces travaux dans de bonnes conditions. Pour cela, le syndicat utilise notamment un accord cadre à bon de commande pour ces travaux. C'est un dispositif prévu par le code de la commande publique qui est largement utilisé par les syndicats et les communautés. Cela permet une meilleure adaptation aux contraintes de planning, d'avoir la réactivité nécessaire lors des travaux d'urgence, mais également un meilleur suivi des travaux et des finitions et une garantie de technicité lors de la pause. Qualification et technologie. L'accord cadre du syndicat est d'une durée de 4 ans à compter de 2020. Le groupement d'entreprises titulaires de l'accord cadre à bonne commande actuellement, donc l'entreprise Rampa qui est située sur Bolène, l'entreprise Tessier de Maison et l'entreprise Rouvière de Sainte-Cécile-des-Lévis. Des marchés spécifiques sont lancés aussi en parallèle à ce marché à bonne commande. Pour favoriser la concurrence sur des opérations importantes. Voilà. En conclusion, les observations définitives de la Chambre des comptes sont, le syndicat estime que c'est une véritable feuille de route pour le syndicat. Elles indiquent une bonne gestion financière et des marchés avec la nécessité de dynamiser le syndicat. Je crois que ce qui convient, c'est à partir des observations de la Chambre des comptes, d'essayer d'améliorer autant que faire se peut tous les dispositifs sur lesquels il y a eu quelques observations pour assurer et garantir une pérennité sur le futur pour les équipements de ce syndicat et notamment les renouvellements importants des conduites qu'il y a à faire dans les années qui viennent. Voilà, donc c'était une synthèse un petit peu de présentation par rapport aux observations et aux réponses du syndicat.
Merci M. Lambertin pour ce rapport très précis. Y a-t-il des questions ou des observations ? M. Grappin.
Oui, je ferai très court. On ne va pas s'attarder sur le contenu. Enfin, si c'est que c'est une feuille de route, on sait derrière quelle était la machine du politique. Ces gens-là, qui ont voulu s'en servir, seront plus là ou bientôt plus là. Un des points qui peut nous inquiéter, et vous l'avez rappelé, M. Lambertin, dans ce que dit la Chambre régionale des comptes, c'est l'appel à la diversification des ressources financières. Et bien évidemment, du coup, à regarder les communes, et ce qu'on peut craindre, c'est bien évidemment les syndicats financent les renouvellements, mais tout ce qui est extension est à la charge des communes.
C'est ça.
Et le point qu'on évoquait précédemment, demain, s'il y a un renforcement de la canalisation eau potable pour aller. Amener la quantité d'eau nécessaire sera à la charge des communes, et c'est là que, à mon sens, il doit y avoir une discussion parce que là aussi, comment les communes, celles qui font de l'aménagement et qui sont dans des situations difficiles, ne sont pas toujours soumises. Le dernier point, un peu une anecdote, mais qui n'est pas complètement, juste vous rappeler, quand on avait désigné les représentants dans les différentes instances, et ça fait près d'un an, en juillet dernier, en juillet 2020, vous étiez engagé, monsieur le maire, à ce qu'on soit destinataire. Les positions des comptes rendus des différents syndicats dont la commune est membre. Voilà, je renouvelle ça parce que ce jour on n'a rien vu venir, hein, que ce soit du RAO, du syndicat hydraulique, etc. Alors, en tant que conseiller communautaire, je suis destinataire de syndicats dans la communauté de communes sont membres, mais s'agissant des communes, on n'a pas ces éléments-là. Donc voilà, un peu de transparence, je pense que je ne nuirai pas. Merci.
Je vais prendre.
Merci.
Oui, je rappelle pour votre information, donc on a été amené il y a quelques mois quand on est arrivé donc, à écrire au syndicat et à parler au niveau du syndicat pour les fameuses extensions auxquelles vous faites allusion, puisqu'il y a un certain nombre de fermes à la palue, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui n'ont pas donc, le réseau d'eau potable. Donc on a attiré l'attention du syndicat là-dessus. On n'a pas eu de réponse, comme vous le dites, très précise, puisque actuellement, ça ne fait pas partie des priorités du syndicat. Mais un certain nombre de communes sont sensibles à ces demandes-là. Donc il est évident que s'il y a une possibilité au niveau du syndicat de pouvoir faire des extensions qui nous paraissent nécessaires dans certains cas, et moi je pense notamment côté est, à la Palue, on a la proximité de Tricastin, on n'est jamais à l'abri d'une pollution de la nappe. De l'autre côté, on a le Rhône et on n'est non plus pas à l'abri d'une pollution du Rhône qui pourrait un jour nécessiter de se priver d'eau potable pour les personnes concernées. Donc tout ça, on suit ça de près, on y pense et on a relancé le syndicat là-dessus.
On a le fameux problème des eaux rouges aussi. Bien, il n'y a pas de vote, bien entendu, puisque non, c'est un rapport. Voilà. Il n'y a plus d'autres questions sur cette délibération. Voilà. Donc, deuxième, c'est la décision du maire. Il y a toutes les questions. Aucune. Avant de vous souhaiter la bonne soirée.
Je tiens à vous rappeler que ce week-end, il y a la fête de la Baie avec la course colorée samedi à la Palucienne. Et dimanche, donc,
la panerie,
exposition de véhicules anciens et deux randonnées proposées par le Sprinter Club à Palucienne. Et la fête d'Otive aussi en même temps.
Voilà. Merci à tous, très bonne soirée.